présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. L'inspecteur dit à son équipe de surveiller de près François. Mais attention, c'est une personnalité intouchable, sauf s'il est vraiment coupable. Et là, il faudra c'est le ramener à la frontière. François reste sagement chez Tony. D'ailleurs, ça ferait mauvais effet s'il sortait. Il doit jouer les amis inquiets. En France, toujours pas de nouvelles d'Elisabeth. On pense qu'elle a été enlevée ou même tuée. L'association décide, parce que tout est prêt, de faire cette soirée de vente de bijoux. Les acheteurs sont déjà arrivés à Cannes. Donc, l'on prévient les journalistes que la soirée aura bien lieu. Pour la soirée, il y a encore plus de monde que prévu et plus de journalistes que l'on pense. Parce que on se dit qu'Elisabeth peut apparaître encore avec encore plus de bijoux et un nouvel ami. Et qui dit peut-être un Français. Et que c'est un couple de ces coups publicitaires. Les gens en tenue de soirée, remplis de bijoux pour les femmes, et même certains hommes, disent que l'on va enfin connaître son nouvel ami. Bijoux mis en vente, on dit qu'ils ont été choisis par Elisabeth elle-même. Même si c'est faux, ça fait bien. Surtout si la personne est décédée ou autre. Ces bijoux sont donc dans des vitrines blindées gardées par des gardes armés. En passant devant les vitrines, l'on commence à faire son choix. Ce sont des œuvres uniques créées par des grands bijoutiers d'après le goût d'Elisabeth parce que c'est sa griffe. Une fois que tout le monde est arrivé, on s'assoit devant une scène où des mannequins vont défiler avec les bijoux sur eux. Et puis à la fin, on fera la vente aux enchères. Cette vente exceptionnelle est retransmise par la télévision. Les télévisions, même en Amérique, parce que les gens s'attendent toujours à la venue d'Elisabeth. Et Tony regarde à la télévision la soirée dans le salon. Tony dit à François, peut-être qu'elle va réapparaître, que c'est une pub. François lui dit, il faut souhaiter, je vais faire un tour, je reviens, je suis énervé.
Vous défilez les pieds nus, le visage voilé avant de choisir ses
bottes.
J'en ai pour quelques minutes. Je vais me dégourdir les jambes. Et François sort. Il va au fond du jardin. Là, il prend un téléphone portable. C'est un appareil qu'il a volé dans un magasin. Comme ça, si la police fait des recherches, elle verra que c'est un téléphone portable quelconque volé. Fin numéro. Attends un long moment avec un léger silence. Allô? Bonjour. Je suis un ami d'Elisabeth et j'aimerais parler à la vice-présidente de l'association. C'est urgent, merci. Allô? Bonjour madame. Elisabeth est entre mes mains. Elle sera libérée que si vous nous donnez l'argent de la vente des bijoux. M'envoyez la somme sur un compte en blanc à la boîte postale de New York 6663-D5. Surtout ne dites rien à la police. C'est très sérieux. Disons que nous sommes la mafia. Alors, si vous tenez à la voir vivante, faites ce que je vous dis. Vous continuez la vente et à la fin, vous ne dites rien, vous mettez la somme dans ce compte en blanc et envoyez-le à la boîte postale. Merci. Et il raccroche. Puis, jette le téléphone portable. À la mer. Il revient près de Tony. Lui demande, il y a du nouveau? Non, rien. La cérémonie semble se dérouler normalement. La villa est... Les organisateurs ont été mis sur écoute téléphonique et très surveillés. La police a entendu l'appel et a prévenu l'Amérique et donné le numéro de l'appareil. La police américaine regarde d'après le numéro de l'appareil qu'il a été fabriqué et volé à Hollywood. La vice-présidente, une grande maigre blonde, à cheveux jaunes, pleine de bijoux d'un 55 ans, est tout effrayée après cet appel téléphonique. Elle ne sait que faire. Elle se dit que la vie d'Elizabeth est entre ses mains. La police qui a entendu l'appareil en même temps qu'elle, lui envoie un inspecteur. C'est un grand homme, blond, dans les 25 ans, habillé d'un smoking. Il est à la soirée. Il était prévenu par téléphone portable. Il voit la pauvre femme près de la scène. Il va à elle, lui dit, madame, pourrais-je vous parler? Je suis l'inspecteur Pondu. Elle fait gêner parce qu'elle ne sait pas s'il faut lui parler de l'appel. Oui, il lui dit, allons dans un endroit plus calme. Et elle le mène dans une pièce du premier, qui est un salon de détente au cas où une personne aura un besoin de repos. Le fait asseoir dans un fauteuil. Elle est en face de lui. Il lui dit, madame, j'ai entendu l'appel que vous avez eu. Bien, toute rouge. Il lui dit, il ne faut pas envoyer la somme. Elle lui dit, Elizabeth est perdue. Alors, il lui dit, on ne sait pas si cette personne qui vous a téléphoné a Elizabeth. Elle lui dit, et s'il l'a? Il lui fait, faisons comme s'il ne l'avait pas. Vous allez à la fin de la soirée dire que vous avez reçu un appel téléphonique et que vous êtes obligé, c'est d'envoyer la somme à la personne qui détient Elizabeth. Mais vous n'en voyez rien. Nous allons mettre des policiers près de la boîte postale et nous le coincerons. Après, vous direz, une fois qu'on aura coincé la personne, que la somme de la vente ira, comme prévu, pour la recherche sur le sida. Elle lui fait, j'y sens ici, nous risquons, c'est de mettre en danger la pauvre Elizabeth. L'inspecteur lui dit, nous verrons. Les soirées se continuent et à la fin de la vente, la pauvre vice-présidente fait son discours. C'est la stupeur générale, mais tout le monde est d'accord que l'on donne l'argent pour sauver la pauvre Elizabeth. Le policier qui est monté lui aussi sur l'estrade, à côté de la femme, dit: c'est le coup de la mafia, mais nous le payera. En France et en Amérique, nous allons créer des lois encore plus dures contre leur trafic, la prostitution, la drogue, les jeux, etc. François et Tony, comme tout le monde, ont entendu tout ça. Tony dit: elle est en vie, tant mieux. On va la relâcher. François lui dit: ce n'est pas fini cette histoire, hélas. Le monde entier est sous le choc et est furieux contre les preneurs d'otages, la pauvre Elisabeth. Tout le monde est furieux contre la mafia. La mafia étonnée et furieuse que l'on accuse. Ils disent que c'est faux. Se mettent à dos le monde entier. Et puis l'on ne touche pas à la brave Elisabeth. La femme des mafieux leur font la gueule. Elle les traite de salauds, lâches. Ils ont touché à leur idole. En Amérique, c'est pire. Les femmes des mafieux sont en furie. La mafia des États se demande quel est ce saligo qui a fait ça. Ils font une enquête de leur côté, dans le milieu. La police est nerveuse et les surveille. C'est très mauvais pour leurs affaires. Après enquête, la mafia sait que ce n'est pas quelqu'un de chez eux qui a fait le coup. Alors le grand parrain, le plus grand chef de la mafia des États-Unis d'Amérique, décide de le dire à la presse. Il convoque dans un salon d'un grand hôtel de New York la presse. Il va avec sa femme, sa fille et son fils. La télévision est là, la radio aussi.
Je déclare publiquement que la mafia, dont je suis le président et le chef suprême, après enquête dans notre milieu, que nous ne sommes pas responsables de l'enlèvement de la pauvre Elisabeth. Nous sommes innocents en tout, que cette histoire ne vient pas de chez nous. D'ailleurs, pour nous, Elisabeth est sacrée. Regardez ma femme, ma fille, mon fils. Depuis sa disparition, il porte le deuil. Aucune mère de nos hommes n'aurait permis ça. Nous sommes des gens d'honneur. On ne fait pas ce genre de choses. Nous avons décidé, c'est d'aider la police pour qu'on retrouve ce salopard. Je demande à tous mes collaborateurs de collaborer avec la police. Elisabeth, pour nous, c'est sacré. La France, l'Amérique, sait que ce n'est pas eux. L'Italie aussi. La mafia italienne respire. Mais tout le monde est inquiet. Parce que si ce n'est pas la mafia, c'est donc une personne isolée et prête à tout. Elisabeth est encore plus en danger. François qui a entendu l'allocution à la télévision sait que c'est perdu. Il n'ira pas chercher la carte. La police doit être prête à embarquer la personne qui ira la chercher. Il se dit qu'il doit faire très attention. La police va plus le surveiller parce qu'elle n'a pas de vrais suspects et que la mafia c'est fini. Donc, il reste tranquille. Il reçoit souvent des appels téléphoniques de gens qui demandent des nouvelles et lui remontent le moral. Cherche à lui remonter le moral. Les jours passent. François ne bouge pas. Il voit de temps en temps Eddie et se remonte le moral mutuellement. Tous deux ont peur, c'est de manquer d'argent. Et que faire des bijoux ? La police continue son enquête. La maison d'Elisabeth en interroge les domestiques. L'inspecteur demande à la bonne qui est au salon. Et monsieur Ducourt, elle lui dit. Oh, c'est un garçon charmant et qui aimait beaucoup madame. Elle ne pouvait pas se passer de lui. C'était un peu comme son bébé. Et lui s'occupait beaucoup d'elle. Il la couchait, la lavait et tout. Comme si elle avait été aussi un bébé. C'était le couple le plus uni qui soit. Jamais une dispute. Jamais. L'on fait des recherches dans le pays. Mais l'on ne trouve rien. Même pas la voiture. Les inspecteurs surveillent toujours François. Ils voient qu'il se comporte comme une personne qui a de la peine. Une vraie peine. Vit chez son ami et ne voit que Eddie, un brave type. La police décide c'est de voir s'il n'y a pas une autre piste. Un matin, on téléphone. François va répondre. Allô? Bonjour monsieur, je suis Marilyn Drac, journaliste au journal féminin La Nouvelle Femme Américaine. Je fais des interviews sur les personnalités qui ont marqué l'actualité. Et j'aimerais c'est avoir un entretien avec vous pour que vous nous parliez de votre pauvre Elisabeth. Pouvez-vous me recevoir ? François réfléchit. Il se dit que ça peut lui être utile. On ne sait jamais. Il lui répond. Oui, je veux bien. Mais c'est surtout pour Elisabeth que je le fais. Ça peut lui être utile. On peut la retrouver. Et puis, ça permettra de lui prouver mon amour. Elle lui fait, eh bien, nous pouvons nous voir quand? Elle lui dit, demain après-midi, 15h, vous avez mon adresse, j'habite chez Tony Anglès. Elle lui dit, Oui, bien sûr, tout le monde connaît ce brave Tony. Alors à demain, François se dit. Au revoir, madame. François se dit qu'il va falloir le dire à Tony. Oui, ça peut m'être utile, ça. Ça permettra de redorer mon blason. Tony est près de la piscine. Il est allongé à prendre un bain de soleil. François va à lui et lui dit « J'ai reçu un appel téléphonique du journaliste. Elle va m'interviewer sur Elisabeth et moi. Est-ce que ça t'ennuie ?» Tony lui dit « Non, mais tu fais attention avec ces journalistes. » Il lui dit « Ne fais pas de soucis, j'ai l'habitude. » Lendemain après-midi, l'on sonne à l'interphone de la maison. François va répondre à l'interphone. Oui, je suis Madame Drac. Bonjour. Voilà, je vous ouvre. Et il va à son devant elle. Pour entrer dans la propriété, toute une équipe pour la télévision, des techniciens. Matériel et une femme grande, mince, blonde, cheveux châtains habillés d'une robe blanche à pois rouges. Il va vers elle furieux et dit « Je croyais que vous étiez journaliste d'un magazine. » Elle dit « Oui, je suis journaliste de magazine. Mais pour que notre magazine se vende bien, nous sommes obligés, c'est en plus, c'est de mettre avec le magazine. » Une vidéo DV qui est vendue avec, bien entendu. Et on choisit le reportage ou l'interview de celui qui est le plus important. Ce voici, c'est le vôtre. Il lui dit, c'était pas prévu. Elle lui fait, j'ai oublié de vous le dire. Et vous serez payé au pourcentage sur la vente. Et on vend dans le monde entier. Vous savez très bien que les DV sont sur les voitures. Alors, il demande, c'est combien? Elle lui fait 10% de la vente. Il lui dit, bien, puisque vous êtes là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Elle lui dit, voilà. La série de mes portraits s'appelle Entre nous. Il faut que c'est un côté intime. Je l'ai fait au coin du feu, près d'une cheminée qui pétille, la nuit, etc. Il lui fait, mais nous sommes par la nuit. Elle lui fait aucune importance. L'enferme les volets. Mettons à l'extérieur du PVC noir pour empêcher le jour d'entrer. Elle lui dit, feu de cheminée. La cheminée ne marche peut-être pas. C'est l'été. Elle n'a pas été ramenée. Elle lui dit, c'est un feu fictif avec une flamme au gaz qui se règle. Ça ne fait pas de fumée et chauffe à peine. Le faux bois, c'est du béton peint qui ne chauffe pas et qui est plus loin des flammes. On craint un éclairage intime, lampe de chevet allumée, etc. et des spots sur les visages. Et voilà. Il dit, bon ben, je veux bien, mais je ne suis pas chez moi. Faites attention de ne rien casser, nous faire des santé. Elle lui fait, nous avons l'habitude. Il voit qu'un homme un chien avec une laisse. Il lui dit, c'est quoi ça? Elle lui dit, c'est pour faire bien. Nous mettrons le chien à vos pieds, ça fait bien. Et puis vous serez habillé de pull blanc avec un décolleté qui montrera votre chemise et votre cravate pour faire décontracté et élégant. Faites attention à vos habits et à ce que vous direz. Vous êtes une personne sérieuse. Pantalon beige, des chaussures de ville en daim marron, chaussettes blanches. J'ai pas tout ça, en Floride il ne fait pas froid, elle lui dit. J'ai tout amené, même les fleurs, pour le vase qui sera à côté de vous, sur la table. N'oubliez pas, c'est que vous allez être vu dans le monde entier et que les gens ne connaissent pas le climat qui fait en Floride. Et puis l'émission s'appelle Entre nous. Il dit, bon, et ben, faites. Elle lui dit, montrez-moi la pièce où il y a la cheminée. Il l'a mené et les autres suivent. Il l'a mené au salon et durant des heures, on prépare la chose. Feu de cheminée, volet fermé, deux fauteuils près de la cheminée, table basse près du fauteuil de François, avec vase où il y a des fleurs. Des roses, bien entendu, un bouquet de fleurs. Et contre le vase, évidemment, la photographie d'Elisabeth. Et on l'a bien posée pour qu'on la voie bien. Derrière eux, les lampes de chevet éclairées. Projecteur pour la lumière en plus. Le chien dort au pied de François, qui est habillé comme en hiver, bon chic. Elle a mis une robe longue, beige, enlamée. Petite musique entre nous. Et l'émission a commencé. François s'est présenté. A parlé du drame terrible qui l'a frappé. De sa vie, de son histoire avec Elisabeth. Il a dit, elle me manque beaucoup. Le moindre bruit me réveille. J'aimerais se mettre ma tête sur sa poitrine. Sentir sa chaleur, son odeur. Il pleure. Elle m'endormait en me caressant les cheveux avec ses mains d'une douceur extraordinaire. J'étais comme son enfant. Maintenant, je suis seul au milieu de ses souvenirs, sans son odeur. La police, pour des raisons que je comprends, m'a chassé de chez elle. J'ai perdu son odeur, ses vêtements et tout. Je suis comme un enfant orphelin. J'ai peur des fois la nuit. Je me réveille. Et je sens un vide terrible près de moi. J'ai envie de mourir. Je supplie les malfaiteurs de me la rendre. Je ne peux vivre sans elle. Ayez pitié de moi. Je prie Dieu pour qu'il m'entende. Elle aussi, de sa vie triste avant elle, de son enfance sans amour. Et c'est elle qui lui a appris l'affection. C'est elle qui lui a ouvert la vie à la vie. Il était seul dans un pays étranger. Et elle lui a ouvert les bras. À lui, le fils sans amour, seul. Elle était douce comme une mère. Et lui était son bébé. Ils se sont unis l'un à l'autre d'une façon qu'ils soient unis à jamais, etc., etc. La vidéo dure 2 heures. Il a fallu toute la journée, une partie de la nuit pour la faire. Ils ont tout rangé, mis en ordre. Puis, en discutant, on mangeait un morceau. Lorsque Tony est de retour, il était surpris de voir tout ça, parce qu'on ne lui a rien dit. À 2h du matin, tout le monde est parti. Un mois plus tard, le magazine avec la cassette DV est en vente dans les marchands de journaux, les supermarchés, avec, sur la couverture et la pochette DV, une photographie de François. Le dessin affiche aussi, il est marqué exclusive. Il a accepté de se confier à nous, François Ducourt, l'ami d'Elisabeth. Le magazine s'arrache comme du petit pain et ça fait une pub terrible à François. Il est devenu intouchable parce qu'il fait pleurer les femmes, etc. Le magazine a beaucoup de succès à l'étranger. La police dit qu'on ne peut plus rien contre lui. Même si c'est lui qui a fait l'enlèvement, parce qu'il est trop populaire. Tony et Eddie sont tristes. Tony dit, alors, le plus grand amour de ta vie, c'est elle? François lui dit, mais c'est pour la revue, c'est pour la presse. Eddie, lui aussi, est triste. Il s'imagine son ami faisant des choses avec cette grosse truie. Il souhaite même qu'elle soit morte. Pour le public, il est devenu le petit prince, seul, sans amour. Les femmes mûres se l'imaginent. Sa belle tête d'image d'ange endormi sur les gros seins de femmes plus que mûres de la célèbre Elisabeth. Et, attendant que François dévoile son intimité avec elle, elle pleure en le voyant sur les écrans de télévision. Comme Elisabeth a le même âge qu'elle, elle rêve qu'il tombe amoureux d'elle. Les jeunes filles le trouvent et pense que c'est dommage que vieille l'ait eu. La police se tait. François se dit qu'il va bientôt être libre de ses mouvements. La vente des cassettes lui a rempli son compte en banque. Une nuit, l'Amérique apprend une terrible affaire avec effroi. Au cours d'une soirée, dans une villa d'Hollywood qui a été donnée pour les fêtes de fin d'année, il y a eu une tuerie. Des hommes tirés sur des centaines de personnes de tout âge, de sexe. Un vrai carnage. La tuerie a été gratuite. Les tueurs ont laissé une lettre où ils disaient qu'ils recommenceraient. Ils sont des nihilistes et qu'ils tuent tout ce qui représente l'Occident. Ils sont pour la destruction du monde tel qu'il est. Cette tuerie a fait un choc terrible. On montre à la télévision le carnage. Ce qui est resté du carnage. Les cadavres, le sang, le cri, les témoins. Parmi les victimes, il y a des célébrités. Deuil national. Lycéens, CIA, armés, tout le monde recherche les tueurs. Ils ont dit qu'ils recommenceraient leur tuerie. Les gens ont peur. L'affaire d'Elisabeth est vite oubliée. Et pour cause. D'elle, mais on pense que c'est peut-être eux aussi qui l'ont kidnappé et qui l'ont peut-être tué. Mais la police ne s'occupe plus de l'histoire d'Elisabeth. Elle n'a pas le temps de s'en occuper. Elle est prise par une affaire beaucoup plus importante, beaucoup plus sérieuse. François se sent soulagé. L'on va l'oublier. Il se dit qu'il serait peut-être temps cette pensée à aller ailleurs, quitter l'Amérique. Avant, il aimerait c'est liquider les bijoux. Et comment faire? Il décide c'est d'aller au Mexique. Ce serait sûrement plus facile. Un matin, il dit à Tony, en prenant son petit déjeuner, J'ai envie, c'est de changer les idées. Après toutes ces histoires, j'aimerais c'est pouvoir partir. Faire un petit tour au Mexique. Elle lui demande, pourquoi? Parce que je ne connais pas le pays. Et puis, je veux oublier tout ça. Tu reviens quand? Je ne sais pas. Peut-être dans 2 jours. Tony lui dit, fais attention à la police. Je sais, mais mon affaire est classée. Il prépare ses bagages. Il ne sait pas ce qu'il va trouver là-bas. Dit au revoir à ses amis. Et passer la frontière sans difficulté. Le Mexique. Une route dans le désert. Des villages perdus dans le sable, fait de masures pourries, des poules, des ânes, des gosses débraillés, des vieux en haillons, tout ça dans le vent, la poussière, la chaleur.
Ya no puede. Canto esta canción. Ya no puede.
Canta como tú sabes, pelado.
Aquel pobre desgraciado que engañó tu
demande comment on va faire pour trouver avant des bijoux. Ils mangent dans des auberges minables, une nourriture noire sur un mat fin, très épicée et rouge. Bois du vin, trouble. Préfère dormir dans sa voiture. Il fait très chaud, même la nuit. Il arrive à Rio, ville immense, au début, on trouve des kilomètres et des kilomètres de bidonville, avec des enfants en haillons. Il arrive au centre-ville, grosse chose, avec des avenues, des gratte-ciels, beaucoup de voitures, de grandes voitures. Des gens bien habillés, mélangés à des gens en loque. Beaucoup d'enfants en loque qui courent dans tous les sens. Des grands cafés, des fontaines où les gosses plongent dedans. Au milieu de tout ça, la police, l'armée. François se cherche un hôtel. Il s'en trouve un. C'est un hôtel international américain. Nous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.